auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Patara qui traite aujourd'hui de la problématique du désarmement des éléments de 3R à Kwi. Est-ce une avancée ou de la poudre aux yeux? Après plusieurs années d'occupation de la localité de Degol, le chef de guerre Sidiki Abbas s'engage enfin pour le désarmement. Quelques de ces éléments identifiés pour les USMS comme prévoit l'accord de paix. Ce désarmement est d'abord l'aboutissement de plusieurs concessions avec Sidiki qui, dans un premier temps, envisage de nommer un successeur à la tête du mouvement en lieu et place de la dissolution du groupe. L'engagement de Sidiki est loin de rassurer la classe politique, la société civile et mieux les autres groupes armés. La présence signalée de ces hommes en Gaoundaï avec des artilleries lourdes, la quantité des armes remises et la qualité sont des points qui renforcent le doute des observateurs. Les députés de Gaoundaï ne sont pas à fond devant ce qui s'apparente à un jeu de cache-cache de Sidiki Abbas. Ils ont déploré la duplicité de l'homme, au point que le centrafricain lambda se pose et s'interroge sur la fiabilité de ce geste sous bénéfice de la présomption de bonne volonté bien sûr. Le gouvernement, après plusieurs rencontres bilatérales, se félicite enfin de cette volonté comme une assurance et gage d'avancer résolument vers la paix. Mais le hic, c'est le fait que le gouvernement et les 3R n'ont pas communiqué sur la transparence et sur la quantité des armes obtenues dans le cadre de ce désarmement. Des sources proches du dossier rapportent que les petits calibres donnés par Sidiki et ses hommes ne sont pas de nature à justifier sa capacité de nuisance. Le doute étant permis, beaucoup sont ceux qui attendent des partenaires de la paix des informations pouvant rassurer l'opinion nationale et internationale. Les extrémistes de Bar n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils ont tenté de dissuader Sidiki d'adhérer au désarmement. Mais si le DDR des 3R semble être un acquis, qu'en est-il pour les éléments étrangers qui inondent le rang de ce mouvement? Ensuite, la localisation de Sidiki Abbas, où se trouvent ses victimes présumées, est-elle de nature à garantir sa sécurité dès lors qu'il est candidat éligible d'explication de ses motivations devant la justice? L'opération désarmement à Kwi est-elle un succès ou de la poudre aux yeux? Ce désarmement n'est-il pas un coup de communication tendant à rassurer les partenaires financiers qui s'impatientent de voir clair dans la gestion du DDR? C'est quoi le terrain d'entente entre Sidiki et le gouvernement? Pourquoi entretenir des zones d'ombre dans le désarmement de ce groupe armé? Le gouvernement n'est-il pas en train de s'occuper de la fumée au lieu de s'occuper du feu? Voilà autant des questions versées à l'ordre du jour de ce débat. Pour en parler, nous avons autour du plateau M. Pascal Koyamene, ancien ministre et représentant du RDC. M. Koyamene, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs.
Nous avons aussi M. Fidel Ngwandika, ministre conseiller spécial du président de la République. M. Fidel Ngwandika, bonjour.
Bonjour.
Nous avons Monsieur Bernard Dila, député de Ngaoundaï. Monsieur Bernard Dila, bonjour.
Bonjour Jean-Fernand, bonjour à tous nos auditeurs.
Enfin, nous avons Monsieur Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Monsieur Paul Cresson Beninga, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de la radio Ndekeluka.
Pour la modernisation, je suis Jean-Fernand Kouena. Sur les boutons techniques, c'est le travail de Herman Nambona et de Anne-Alex Pounimati. Émission Patara, c'est tout de suite après cette transition que nous propose la technique.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Ouvrant ce débat par vous, Bernard Dila, vous vous inquiétez beaucoup plus de la présence des hommes de Sidiki Abbas dans les circonscriptions électorales de Ngaoundaï et vous vous dites très préoccupé. Qu'est-ce qui pouvait expliquer aujourd'hui cette préoccupation dès lors que Sidiki s'est engagé à désarmer ces éléments?
Merci Jean-Fernand. Je crois que en réalité, avec le désarmement, on ne peut qu'être rassuré. Nous avons soutenu et nous soutenons, nous continuons à soutenir l'accord de Khartoum, l'accord de Bangui. Nous continuons à le soutenir pour pouvoir arriver au désarmement total et au démantèlement, comme le dit l'accord même, au démantèlement des groupes armés, pour pouvoir permettre à nos populations de vaguer librement à leurs préoccupations. Aujourd'hui, avec le désarmement qui a eu lieu, c'est un pas. Et ce pas, je crois que le gouvernement l'a commencé depuis bien des temps. Le gouvernement a fait des concessions, le gouvernement a intégré dans le gouvernement et même dans d'autres administrations les représentants de ces groupes armés. Le gouvernement a fait des pas. Et des pas que parfois nous considérons comme des pas excessifs, parce que des pas qui vont même pratiquement à une compromission, nous l'avons dit. Mais naturellement, nous comprenons cela. Nous comprenons cela en ce sens que la paix n'a pas de prix comme des grands penseurs, des grands chefs d'État africains comme Omar Bongo l'a dit, la paix n'a pas de prix. Nous comprenons voilà, ces gestes du gouvernement. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons ? Que face à cette bonne volonté du gouvernement, il y a en face voilà, des groupes armés qui ont des projets qui ne sont pas ceux qui puissent ramener la paix. Parce que leur objectif n'étant pas la paix, eux, ils sont là que pour chercher à profiter de notre pays, à exploiter nos ressources, à piller nos ressources, et à mettre la population centrafricaine dans des situations très difficiles. Voilà, c'est pourquoi, avec ce désarmement, la première réaction, c'est un ouf. On dit, ah, on est pratiquement arrivé au début de solution. Mais qu'est-ce qu'on va se rendre ? On va se rendre compte automatiquement qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Que ce désarmement n'est pas du tout bien pensé, en ce sens qu'on a laissé à Sidiki la possibilité...
Bien pensé par qui ?
Ben... pas bien pensé, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont responsabilisés pour ce désarmement. Je crois qu'il y a un ministre chargé du désarmement, donc c'est l'action du gouvernement. Mais je crois que comme toute action humaine, probablement, cette action n'est pas bien réfléchie, en ce sens qu'on a toujours laissé, voilà, laissé un terrain, ce qu'on peut qualifier même d'échappatoire à Sidiki, qui aujourd'hui, comme il a l'habitude de le faire, fait un pas, mais va faire deux ou trois autres pas en arrière. Parce que nous comprenons qui est Sidiki. Ce n'est pas aujourd'hui que le gouvernement a affaire avec ce type-là. Ce n'est pas pour la première fois que le gouvernement a affaire avec des groupes armés. Quand ces groupes armés prennent des engagements, le plus souvent, ils ne respectent pas ces engagements. Ils ne respectent pas. Et ça, on le sait. Il fallait mettre ça sur la table pour voir comment on peut prendre l'engagement de Sidiki avec beaucoup de pincettes et l'obliger. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu, Sidiki a fait ce pas-là parce qu'il se sent un peu serré par les actions militaires sur le terrain. Il se sent un peu pris en étau. Et c'est pourquoi il a fait ce pas. Mais attendons voir qu'est-ce qui va se passer. D'autant plus que, avant que ce désarmement ne puisse avoir lieu, on va le débattre tout à l'heure, avant que ce désarmement n'ait lieu, il a pris des précautions. Il a pris des précautions pour déplacer ses armes, pour couvrir d'autres bases dans d'autres localités. Et donc, pour quelle raison ? Parce que s'il décide de se désarmer, il décide sincèrement de se désarmer, je crois qu'il ne peut pas ouvrir d'autres bases, il ne peut pas commencer à amener ses armements ailleurs.
Ok, nous comprenons votre développement. Monsieur le ministre Fidèle Ngwandika, le désarmement d'abord en amont a été déjà conçu et préparé par la présidence de la République avant d'être placé sous le contrôle gouvernemental. Alors, avec cette phase où nous sommes arrivés, le désarmement de 3 heures, comment vous avez accueilli et quelle analyse faites-vous aujourd'hui de sa bonne volonté à aller vers la paix ?
Je peux dire aujourd'hui, avec certitude mathématique et une fierté nationale, que c'est grâce à la mise en œuvre effective de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019 que les opérations de DDR ont pris un nouvel élan, avec le désarmement et la démobilisation totale des éléments de RJ Sayo, qui a été un succès véritable dont on n'en parle jamais. Deuxièmement, le désarmement des éléments de 3R de Sidiki n'est qu'à ses débuts et donne déjà satisfaction selon le ministre Maxime Mokom, chargé du DDR et qui a été sur le terrain pendant plus de 2 semaines. Alors, venir aujourd'hui pour dire que les choses ne marchent pas comme il faut, moi je dis non. Je dis que le peuple souverain doit savoir qu'il s'agit là que du désarmement volontaire qui n'est qu'à son début. Donc à terme, tous les éléments des 14 groupes armés seront désarmés de gré ou de force. Le gouvernement, à travers l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019, est plus que jamais déterminé à ramener la paix, la sécurité et la quiétude sur tout l'ensemble du territoire centrafricain.
Est-ce qu'au niveau de présidence, vous pouvez nous donner une idée sur le nombre des armes et des munitions qu'a donné Sidiki pour prouver sa bonne volonté ?
Cette question a été posée lors de l'interpellation du gouvernement récemment devant le Parlement. Et le ministre Mokom a bien dit qu'il ne s'agissait pas de 50 armes comme disent certaines personnes ou certains membres du Parlement, certains honorables députés. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que les 3 heures comptent 2301 combattants. 248 sont déjà désarmés et vont intégrer les rangs de l'unité spéciale de mix de sécurité dans la zone nord-ouest du pays.
Donc, ça veut dire que...
je ne puis pas vous dire si c'est 500 armes, si c'est 300 armes, parce que bon, 2301 300 combattants ne veut pas dire 2300 une arme, voilà. Et donc je ne suis pas en mesure de vous dire avec certitude le nombre d'armes et de munitions de guerre qui ont été ramassées.
Ça veut dire qu'il y a des zones d'inquiétude en vous lorsque le nombre dépassant les armes restituées par 3R.
Écoutez, quand le responsable des anti-Balakaou, le responsable du rébellion de Nouridine disent qu'ils ont 35 000 combattants, cela ne veut pas dire qu'ils ont 35 000 Kala, ainsi de suite, voilà.
Mais ils ont quand même une capacité de nuisance.
Ils ont une capacité de nuisance, bien sûr. Mais le désarmement se fait comme il se doit, selon la règle d'art. Et nous allons, de ce pas, finir ce désarmement-là dans les délais prescrits par l'accord de
le désarmement se fait selon les règles de l'art, monsieur Pascal Koyamene, en voyant le fait que les éléments de 3R quittent leur zone de prédilection pour aller en Gaoundaï. En quoi cela vous inspire au niveau du RDC ?
Je crains que tout ce que viennent de dire mes prédécesseurs soit... Enfin, je suis d'accord avec le député de la Nation sur un point. Au moins, je crois que c'est la poudre aux yeux. Il y a des chiffres ici sous les yeux qui viennent de la présidente de la République et des responsables du DDR. On a enregistré l'effectif des combattants 9116. Au jour d'aujourd'hui, 583 démobilisés. Ça vous dit rien, ça ? C'est même pas le dixième. Même pas le dixième. Ça pose un problème de fond, première question. Deuxièmement, quand on parle de 3R, quand on dit démobilisation, on dépose sur la table une vieille Kala, une masse 36 et autres et tout ça. Sur 58 personnes, on dépose ces armes-là. Alors qu'ils ont des armes lourdes, ils ont des batteries anti-aériennes. Tout ça a été déplacé. Est-ce que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons ? Est-ce qu'on peut parler de désarmement là ? Est-ce qu'on peut parler de démobilisation ? Les armes lourdes ont été transportées d'un point à un autre. Donc la capacité de nuisance reste intacte. Sur 2301 déclarés, alors 58, plus 192 qui ont été mis à la disposition de l'unité mixte de patrouille et autres et tout ça. Ça fait à peu près le chiffre qu'a donné le ministre Ngwandika, mais c'est ridicule. Deuxièmement, il y a un problème au fond qui se pose. Est-ce que réellement les groupes armés ont confiance au gouvernement ? Ou bien c'est un marché de dupes. J'ai comme impression qu'il y a une méfiance totale entre les deux camps. C'est-à-dire d'un côté le gouvernement qui parle de désarmement, de ceci, de cela. Et puis d'un autre côté, la volonté qui ne pointe pas à l'horizon, la volonté réelle de désarmer.
Mais quand même, à ce niveau, Sidi qui doit quand même bénéficier d'une présomption de bonne volonté pour pouvoir accepter d'être
localiser. Moi, je suis Saint-Thomas, un chef, oui, il peut désarmer et les généraux. Tous ces généraux n'ont pas désarmé. Il y a un problème. Oui, certes, s'il a désarmé, s'il s'est livré, qu'on l'a déplacé, il est sous protection. C'est très bien. Mais les généraux, tout son état-major est resté intact. L'armement est resté intact. Je vous ai dit, les batteries aériennes qui ont permis d'abattre un avion de la MINUSCA, tout ça. Hey, est-ce que ça a été récupéré ? Est-ce que ça a été détruit ? Rien du tout. En ce moment-là, la capacité de nuisance reste. Et je suis inquiet pour mon frère à côté, qui est député de Ngaoundaï, parce que quand on déplace les armes lourdes de cette qualité, d'un point à un autre vers Ngaoundaï là-bas, l'insécurité va s'installer dans cette zone-là. Donc moi, je pense que c'est cela. Je voulais dire quelque chose sur le DDR. Moi, j'ai été vice-président du comité de suivi de dialogue politique inclusif de 2009 à 2011. Le DDR dont on parle, c'est de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, quand un élément des groupes armés est démobilisé, qu'est-ce qu'on lui donne ? 67 000 francs. Quelqu'un qui, avec son arme, gagne des millions par jour. Vous croyez vraiment que les gens vont désarmer dans ces conditions-là ? On a commencé par 100 000, maintenant on est à 67 000. Aujourd'hui, la MINUSCA dit encore que non, je récupère que les armes, mais pas les munitions, pas les grenades, pas ceci, cela. On est dans une situation où personne ne sait exactement qui fait quoi et où on va.
Okay. Voilà, vous restez toujours pessimiste par rapport à la réalisation du DDR, monsieur Christian Beninga, à entendre parler du désarmement de 3R, en quoi cela vous inspire ?
Je vous remercie déjà pour la question. Je voudrais d'entrée de jeu dire à M. Ngwandika que ce n'est pas parce qu'on est au début d'une opération qu'on ne peut pas se prononcer ou qu'on ne peut pas poser un regard critique. C'est important parce qu'il s'agit là d'une évaluation qu'on peut qualifier d'une évaluation à mi-parcours. Donc c'est important d'en parler. Et lorsque vous me posez la question, quel regard nous portons sur le désarmement des 3R ? Écoutez, lorsque vous m'avez communiqué le sujet du débat, je me suis posé une question. Est-ce que nous disposons d'un certain nombre d'éléments matériels pour pouvoir effectivement avoir ce débat ? Parce que lorsqu'on regarde, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, lorsqu'on entend le Premier ministre répondre à l'interpellation des élus de la Nation ainsi que le ministre en charge du DDR, on se pose un certain nombre de questions. Nous connaissons un peu le groupe 3R. C'est un groupe qui est lourdement armé. C'est un groupe qui dispose du matériel de guerre. C'est un groupe qui a une capacité qui lui a permis par le passé d'opposer une résistance aux forces de maintien de la paix. C'est un groupe qui dispose du matériel de guerre qui lui a permis de s'aimer panique et désolation aussi bien dans la zone de Nanamambéré que dans la zone de Luampindé. Et donc, lorsqu'on procède à un désarmement, ce que l'opinion aussi bien nationale qu'internationale attend de voir, c'est de voir qu'on mette sur la table les armes qui ont permis à ce groupe d'opposer ces résistances-là aux forces de maintien de la paix, de s'aimer panique et désolation. Mais voyons, lorsqu'on jette un regard sur le matériel remis aux institutions en charge du DDR, on se pose la question sur la bonne foi et sur la bonne volonté de Sidiki d'aller vers la paix ou de participer à la création des conditions d'une paix durable. Je m'explique, pour moi aujourd'hui, Sidiki est en train de se jouer de nous et les gens ne veulent pas l'accepter. Vous savez ce qui se passe ? Il y a deux éléments. Il y a des éléments qui m'ont amené à penser que Sidiki se voit un peu contraint en train de se faire désarmer. Mais en fait, c'est une tromperie. Le premier élément, c'est lequel ? C'est la frappe des positions de Sidiki. Sidiki a été à un moment donné frappé par les forces de maintien de la paix. Qu'on ne veuille ou pas, ça peut l'affaiblir. Même si ça ne l'affaiblit pas du point de vue matériel, mais ça peut l'affaiblir moralement. Le deuxième élément, c'est que ceux qui constituent les personnalités politiques qui représentent le groupe 3R au sein de nos hautes institutions, à un moment donné, ont pris position. Alors, si ces prises de position ont influencé l'appréhension de la situation de Sidiki, ça peut l'amener, bien évidemment, à revoir un peu sa stratégie. Et la stratégie, c'est laquelle ? Sidiki est en train de procéder à une mutation de base, tout simplement. Sidiki est en train de quitter Kui pour peut-être élire domicile en Gaoundaï, et ce qui suppose que Sidiki est en train de déplacer méthodiquement ses armes de Kui, ses éléments de Kui pour Gaoundaï, parce que cet an dernier, et le député l'a rappelé ici, Sidiki est organisé le déplacement de ces hommes et on signale la présence de ces hommes dans la zone de Gaoundaï. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire quelque part que Sidiki ne croit pas à la paix, ou du moins ne croit pas à la paix par ce chemin-là.
Mais
ce
il ne peut pas vouloir une chose et son contraire en acceptant de se faire désarmer lui-même pour donner
un écoutez, ça reste un acteur. Sidiki reste un acteur. Un acteur, c'est celui qui est doté d'une stratégie. En face de l'interaction, en face du système, l'acteur se déplace, l'acteur conçoit des stratégies, il les met en œuvre. Et c'est ce que Sidiki fait. Aujourd'hui, Sidiki accepte de se faire désarmer. Mais comme quelqu'un l'a rappelé autour de cette table, qu'en est-il de ses généraux ? Qu'en est-il du matériel dont il dispose ? Est-ce que à partir de ces éléments-là, peut-on dire que Sidiki est de bonne foi ? Je dis non, Sidiki n'est pas de bonne foi. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, je lui dis souvent, quand on essaie de négocier, parce que c'est ça également l'État. L'État dispose de deux éléments fondamentaux. D'une part, l'armée et d'autre part, la diplomatie. Donc vous avez le diplomate et vous avez le soldat. Lorsque on essaye de faire la promotion par le canal du diplomate ou de la diplomatie et que ça ne marche pas, il faut s'arrêter un bon moment et avoir recours aux soldats. Et je pense que dans le cas du Sidiki, à un moment donné, c'est ce qu'il faut brandir. Parce que la récréation a trop duré. On nous l'a rappelé autour de cette table que le désarmement était un processus. Je suis entièrement d'avis. Le désarmement était un processus. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer à tenir ce discours qui tend à bercer Sidiki, qui tend à bercer un certain nombre de groupes armés au détriment de la population qui souffre dans ces zones occupées par ces groupes?
Ok, nous comprenons la politique de bâton et de la carotte que vous envisagez. Mais monsieur le ministre, aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement a de plus embarrassant pour ne pas communiquer sur la nature des armes qu'a donné Sidiki Abbas ?
Le gouvernement communique bien sur la nature des armes.
Jusque-là, personne n'a une idée sur la quantité des armes.
Le Parlement, où réside l'opposition démocratique et la majorité, a interpellé le gouvernement. Le Premier ministre a donné des explications. Chaque ministre a donné des explications, ainsi que le ministre en charge de la Défense. Il n'y a pas plus clair que ce que ces membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre, ont dit lors de cette interpellation. Les députés ont posé des questions, même des questions qui fâchent, et ils ont reçu les réponses. Mais je voudrais tout de suite répondre à M. Kouya Mene de l'opposition démocratique que si le DDR a échoué dans ce pays où vous avez été le vice-président du comité de suivi, si ça a échoué depuis plus de deux décennies, c'est parce que les putschistes qui ont pris le pouvoir en important en République centrafricaine des mercenaires, des seigneurs de guerre. Ils ont recruté des bandits de grand chemin dans le pays, étaient leurs amis. Et ils ne pouvaient pas se débarrasser facilement de leurs amis que sont ces mercenaires-là. C'est pourquoi le DDR n'a pas marché. Il y a eu des financements. Ces financements, l'argent fruit de ce financement, a été détourné par l'ex-président et un ministre qui était en charge du DDR. Voilà pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Mais en dépit de tous ces accords qui n'ont jamais été respectés, l'accord du 6 février, je venais de le dire, a sonné le glas du DDR et de l'arrêt du désordre dans le pays. Parce que... Ah oui, vous pouvez rire. Vous pouvez rire.
Oui, mais ce n'est
pas... Je vous dis, ceux qui ont pris le pays par coup de force et de sang, depuis 1981, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, c'est eux qui ont ramené des mercenaires. Ça, il faut le dire, que le peuple souverain s'en souvienne.
Monsieur le ministre, j'ai envie de vous poser une question.
Allez-y.
Est-ce que la duplicité de Sidiki, qui d'un côté nommé à la primature, après fait volte-face, change de discours, est-ce que ce comportement comportement qui est l'ADN de l'homme, vous rassure aujourd'hui.
Nous ne sommes pas des psychologues autour de cette table-là. Vous avez vos canaux d'information et je vous ai toujours dit que moi qui suis membre du Conseil de sécurité de la République centrafricaine, nous avons des canaux d'information plus fiables sur ce que vous dites. Plus fiable. Et donc, me poser la question pour savoir quel calibre, quel nombre. Poser la question à UNMAS. Il y a une organisation des Nations Unies qui s'appelle UNMAS. C'est cette organisation qui collecte ces armes et qui les garde.
Et tout et ça donc, sous le regard du gouvernement. Donc, ben, aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas aujourd'hui se désolidariser de la gestion du DDR.
Mais non, le DDR est conduit par le gouvernement. Le DDR est conduit par le gouvernement. Nous sommes encore sous embargo. Et toute arme récupérée doit faire office de contrôle par cet organe des Nations Unies qu'on appelle UNMAS.
Ok, l'honorable Bernard Dila, aujourd'hui, non seulement l'accord de 6 février exige aux éléments des groupes armés de dissoudre leur mouvement, mieux, Sidiki Abbas veut nommer un califat à la tête de son mouvement. En quoi cela vous inquiète?
Mais je crois que ça ne rentre que dans sa stratégie de pérenniser son organisation de mafieux, de pilleurs, de le pérenniser. Vous le savez, je vais rappeler quand même quelques éléments. Quand nous parlons du DDR et de l'accord de paix prévoit en ces termes d'une manière très claire que après 90 jours, les groupes armés doivent se dissoudre. Les groupes armés, en principe, ne doivent plus exister. 3 mois après la signature de l'accord de paix. L'accord de paix a été signé le 6 février. Aujourd'hui, comptez, nous sommes au mois de novembre. Nous avons pratiquement 9 mois. 9 mois, les groupes armés ne sont pas dissous. On est au niveau du désarmement. Quel désarmement? Je vais rappeler ce que mon frère a dit.
Christian Beninga
a planifié. C'est un mot, mais fondamentalement clair. Il a planifié le déplacement de ses hommes. Pourquoi je dis cela? Le 10 août, quand Sidiki avait déjà des rumeurs sur des pressions que la communauté internationale, que le gouvernement est en train d'exercer sur lui, le 10 août, il est parti de Kui se rendre à Kolo, une base de la Séléka de Bar, pour pouvoir négocier un ralliement. Il était là-bas. Les autorités locales étaient aussi à cette rencontre-là. À un certain moment, il a ramené les éléments de Bar dans la maison pour pouvoir s'entretenir avec eux. On avait ces informations depuis le 10 août. Il préparait le transfert de sa base. Il a planifié cela. Après, la veille de ce désarmement à Kui, la veille de ce désarmement qui a commencé, je crois, le 4 novembre, à la veille, Sidiki a pris des véhicules qu'il a chargés plein d'éléments des 3R qu'il a amenés à Gaoundaï pour les acheminer sur Kolo. D'aucuns sont en train de mentir pour dire que voilà, ce sont les véhicules de Bahar qui est allé vers Sidiki parce qu'il ne voulait pas que... Mais Bahar, qui a vécu dans la zone de Gaoundaï depuis la nuit des temps de cette rébellion, n'a jamais eu de véhicule, aucun véhicule chez les éléments de Bahar. Les gens de Bahar n'ont pas de véhicule. Les véhicules sont bel et bien des véhicules appartenant à Sidiki, qui a déployé ces véhicules-là pour transférer des armes et des hommes à Gaoundaï et à Kolo. Et aujourd'hui, automatiquement, après le désarmement, nous avons assisté à un défilé de vagues des éléments du 3R. Il ne faut pas penser que ce sont des éléments qui s'échappent parce qu'ils ne veulent pas du DDR. Il y a un plan qui est là derrière. Je suis d'accord parce que avant même que le DDR ne commence, Sidiki, sachant qu'il y aura des éléments Peul qui sont centrafricains, et qui sont des citoyens qui sont épris aussi de paix et qui sont fatigués de cette guerre-là et qui veulent rendre leurs armes, Sidiki est parti lui-même arracher des armes entre les mains de ces éléments-là. Les éléments Peul, sur qui il ne croit pas, il allait dire donc, c'est moi qui vous ai donné des armes, ramenez-moi mes armes. Lui-même, il a commencé à désarmer un certain nombre de ces éléments avant. Mais les éléments qu'il a désarmés, les armes se trouvent où en ce moment? Parce que est-ce que Sidiki lui aussi a remis une quantité d'armes? Il a remis. Ça, ce sont des interrogations que nous pouvons poser. Okay. Il y a un autre problème qui se pose en ce sens que, s'il vous plaît, juste une seconde, quand on parle de l'USMS où maintenant on est en train de mettre en œuvre l'USMS, mais il faut respecter l'accord de paix. L'accord de paix, c'est l'USMS là doit commencer à être opérationnel, c'est-à-dire après la formation, ceux-là qui sont formés pour rentrer dans l'USMS, l'USMS commence à être opérationnel après le désarmement complet. Quand il n'y a plus des groupes armés sur le terrain, c'est en ce moment-là que ces éléments-là doivent prendre la relève pour pouvoir protéger les couloirs de transhumance, les bétails, etc., etc. Mais aujourd'hui, les groupes armés sont potentiellement là. On va commencer à former les gens à l'USMS. Est-ce que les éléments de l'USMS qui vont aller sur le terrain seront ensemble avec ces groupes armés-là? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il y a autant d'interrogation, mais logique. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il faut qu'on soit réaliste. Il ne faut pas qu'on se laisse duper. Parce qu'on s'est déjà suffisamment laissé duper par ces groupes armés-là. Okay. Ces groupes armés nous ont suffisamment dupés. Et aujourd'hui, je crois que le gouvernement doit être suffisamment éveillé, suffisamment prudent pour pouvoir discuter avec ces gens. Pourquoi on doit continuer encore à traiter Sidiki? C'est comme si on doit négocier avec lui. Ou il rentre dans le DDR et il le fait pleinement, il joue pleinement le sérieux dans ce DDR qu'il doit faire, ou il ne le fait pas. Et alors, il faut mettre en pratique l'accord de Khartoum qui exige des sanctions. C'est tout.
Ok, monsieur Pascal Koyamene, est-ce que avec les balbutiements au niveau de la mise en œuvre de l'accord et le désarmement des 3R, Sidiki n'envoie pas des signaux aux autres groupes armés?
Mais moi, je me pose la question de savoir, l'accord de paix dont on nous parle souvent ici a montré ses limites. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun groupe armé n'a déposé les armes ou dissous son groupe. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part.
Il n'y a quand même pas avec les 3R.
Mais 3R, c'est quel pas? De quel pas parle-t-on? Je vous dis, 58 gars ont déposé. Deux calas, trois machins, des petits trucs comme ça, les vieux fusils, Mas 36 et autres. Vous appelez ça un désarmement? En plus, je vous parlais de 583. Parmi les groupes armés, il y a des groupes non combattants. C'est la plupart des gars là qui ont désarmé. Prenez Balaka. Balaka couvert tout le territoire national. Ils ont désarmé combien? Oh, ils ont déclaré combien de combattants? 243. Est-ce que c'est sérieux ça? Non, il faut être sérieux. J'aime bien la façon de mon frère Gwandika qui confond tout, qui mène des coups d'État mené en 1986 et en 1981 par l'armée centrafricaine, ce n'était pas des étrangers, et au coup d'État dont le gouvernement il a servi longtemps comme griot et qui a été balayé et qui a fait un coup d'État avec les étrangers dont il parle. Donc il ne faut pas confondre l'histoire de notre pays, il ne faut pas tromper le peuple avec des faits erronés en racontant des histoires. Donc je vous dis qu'il y a deux problèmes. D'abord, l'accord de Khartoum a montré ses limites. Donc ça pose un problème. Il faut peut-être reconvoquer les gens, s'asseoir et voir où, qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, rien n'avance? Ou à petits pas, ou de très petits pas. Première chose. Deuxièmement, je vous dis, il y a un problème de confiance qui se pose au jour d'aujourd'hui entre le groupe d'armée et le gouvernement. Il y a un problème de confiance. Personne ne fait confiance. On est là. On tourne en rond dans cette affaire-là.
Mais à qui va profiter cette crise de confiance alors?
C'est le peuple qui subit les conséquences parce que ça ne profite à personne. Les groupes armés sont là, ils font ce qu'ils veulent, ils tuent, ils continuent de tuer jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, la MINUSCA a même déclaré qu'il y avait plus de 80 et quelques violations de l'accord. Ça vous dit rien, ça? Deuxièmement, il y a un problème de transparence. Le gouvernement ne communique pas suffisamment. Je vous ai dit, j'ai sous les yeux des chiffres de la présidence de la République, le service s'occupe de DDR. J'ai l'autre ici. C'est des chiffres officiels. Mais c'est effarant. Il n'y a rien de concret. Quelques petits groupes, je vous ai dit, non combattants. C'est eux-là qui désarment le plus. Mais regardez ce qui se passe à Birao. Regardez ce qui se passe à l'est de la République centrafricaine. Le centre, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on a déjà entamé le DDR là-bas? Rien. On parle que de Sidiki. C'est Sidiki seul qui est le groupe armé le plus puissant. Il y en a qui sont suffisamment armés, qui font la loi à l'UPC, qui contrôle une bonne partie du territoire. Où tu passes bombardé, tu dois payer tu dois payer des taxes à chaque village, à chaque machin. Il y a des barrières un peu partout. Il y a un problème très sérieux. Donc l'accord pour moi de Khartoum, c'est peut-être quelque chose qui avait, il fallait commencer quelque part. Mais aujourd'hui, ça a prouvé ses limites. Il y a des problèmes qu'il faut peut-être rediscuter, revoir.
Ok. Nous comprenons, monsieur Cresson Beninga, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le DDR Akui n'est pas qu'une opération de communication pour rassurer les partenaires financiers qui ont injecté leur argent pour financer le DDR?
Oui, je vais répondre à votre question, mais avant, vous permettez, je vais encore interpeller monsieur Mwandika parce qu'il a dit quelque chose qui me paraît extrêmement grave. Je m'explique, lorsqu'il essaye de pointer du bout de doigt la responsabilité de certains régimes dans ce pays, je pense que c'est une très bonne chose. Mais une chose est de pointer du bout de doigt la responsabilité de ces régimes. Une autre chose est d'assumer également sa propre responsabilité. Monsieur Ngwandika, fidèle ici présent, a été ministre au temps de Bozizé, parce qu'il évoquait le cas de Bozizé, au temps de Bozizé et le cas de DDR pendant deux décennies. Il a été ministre, donc je pense qu'il assume la responsabilité et la responsabilité de cet échec parce qu'il ne l'a jamais dénoncé. Au temps où il était ministre, il n'a jamais dénoncé ces actes-là, et à partir de ce moment, du point de vue historique, il est également responsable de cet échec-là. Et de par là, je voudrais dire une chose également à ceux qui nous écoutent, parce que c'est une habitude dans ce pays. Lorsque nous occupons les responsabilités politiques et à un moment donné de l'histoire, lorsque nous changeons de bord, nous avons cette tendance à critiquer sans pour autant assumer sa part de responsabilité. Je pense qu'il y a quand même un principe en gouvernance qui est le principe d'exemplarité. Si M. Mwandika n'était pas d'accord, il aurait dû démissionner à ce moment-là, et à partir de ce moment, l'histoire aura retenu qu'il n'était pas d'accord avec ces pratiques-là et qu'il a abandonné le bateau avant que le bateau ne puisse chavirer. Cela dit, je reviens à votre question. Votre question est celle de savoir est-ce qu'il ne s'agit pas d'un coup de communication. Non, vous savez, j'ai comme impression que nous avons deux acteurs en face et chacun à sa manière de procéder sans pour autant qu'il y ait une vue commune. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons acquis, nous avons assisté à ce scénario. Je m'explique. Du côté du gouvernement, sauf si je me trompe, le gouvernement croit à ce qui se fait, à ce qui se passe sur le terrain, alors que du côté des groupes armés, notamment de Sidiki, il ne croit pas à cela. Il ne croit pas au DDR. Il ne croit pas à une paix. Il n'a pas envie de créer les conditions d'une paix durable. Ce qui fait que lorsque le gouvernement déploie moyens, ressources humaines pour pouvoir aller sur le terrain et organiser le désarmement, il croit effectivement qu'il y aura désarmement. Je suis de ceux qui pensent que le désarmement volontaire avec un certain type de groupe armé dans ce pays ne marchera pas. Je citerai les 3R, je citerai l'UPC, je citerai MPC et peut-être également le FPRC. Ce sont des gens qui ne croient pas un seul instant au désarmement. Ce sont des gens qui ont fait de la rébellion un métier. C'est des gens qui ont fait de la rébellion un fonds de commerce. C'est des gens qui ont fait de la rébellion un moyen de survie. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous leur tendez la carotte, ils pensent que vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de blaguer.
Mais vous êtes en train de surfer sur le choix d'option où le chef de l'État a déjà tranché qu'il refuse de faire la guerre et qu'il faut faire le désarmement négocié.
Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec le chef de l'État. Et sur ce coup, je ne serai jamais d'accord avec lui.
Mais c'est une question de choix d'option aussi.
Oui, c'est une question d'option. Mais en tant que citoyen, je suis libre de me prononcer sur ce choix-là. Pourquoi ? Parce que cette option n'a jamais marché dans ce pays. Citez-moi l'exemple d'un groupe armé, lourdement armé, qui a accepté dans ce pays de se faire désarmer sans pour autant qu'il y ait la force.
Mais on a le cas, le RJ quand même.
Non mais écoutez, voilà. Si on fait la classification des groupes armés, on sait ce que le RJ représente dans la grande famille des groupes armés. On sait ce que, par exemple, ou si vous voulez, les deux tendances RJ, on sait ce que ces tendances représentent. Et lorsqu'on allait désarmer le RJ, donnez-moi l'effectif des combattants, mais donnez-moi le nombre du matériel qui a été collecté.
Respectez la police de débat, la parole sera distribuée à
alors,
tout le monde.
Lorsque vous faites l'analyse sociogénèse et socio-historique de ces mouvements, vous allez vous rendre compte que le RJ, sans pour autant frustrer d'ailleurs, les fondateurs ne représentent pas grand chose dans le paysage des groupes armés dans ce pays. Je vous dis, il y a 3R, il y a le FPRC, il y a l'UPC, le MPC. C'est des groupes qui sont lourdement armés, qui n'acceptent jamais de se faire désarmer. Et à partir de ce moment-là, arrêtons de prêcher l'évangile, arrêtons de faire croire qu'avec cette option de paix, nous allons arriver à désarmer ces gars-là. Il faut les attaquer, il faut les bombarder, il faut faire la guerre à ces groupes armés.
Il faut faire la guerre
Je veux juste ajouter quelque chose. Je crois qu'il faut faire la différence entre ces groupes armés-là. Quand nous parlons du désarmement des RJ, les RJ sont constitués majoritairement, pratiquement à 100% des fils de ce pays-là. Ce sont des Centrafricains. Ce sont des Centrafricains qui ont voulu se défendre aussi à un certain moment face à l'agression de ces mercenaires étrangers qui sont arrivés. Ce sont les fils de ce pays-là. Ils n'ont pas de choix que de dire que nous voulons la paix pour notre pays. Or, si nous prenons les autres groupes armés, il faut bien les voir. Nous prenons Sidiki, nous prenons Al-Khatim, nous prenons Ali Daras. Mais ce sont des mercenaires étrangers. Ils n'ont rien à gagner dans ce pays-là. Ce qui les intéresse dans ce pays, ce sont les richesses de ce pays-là. C'est-à-dire piller ce pays-là, s'enrichir, même mettre le pays à feu et à sang. C'est pas leur problème. L'essentiel est qu'ils tirent profit de ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est une autre chose. Mais quand tu es face à un fils du pays, tu lui parles. Je crois qu'il est disposé à te donner même ses armes. Je crois que Mokom, sur le terrain, l'a dit. Quand ils ont commencé à faire le désarmement à Kui, ce sont les jeunes anti-Balaka de Mokodiwali qui les a appelés pour dire que, ok, mais si le désarmement commence, venez, nous, on a des armes, on va vous donner. C'est-à-dire que c'est d'une manière volontaire que ces jeunes, parce que eux, ils sont les fils de ce pays-là. Ils sont les fils de ce pays. Mais va demander à cet étranger qui est arrivé sur notre sol, qui est arrivé dans notre pays, rien qu'avec l'objectif de se faire la richesse, de mettre main basse sur nos richesses. Mais il s'en fout pas mal de la vie du Centrafricain. Désarmé ou pas désarmé, il faut qu'il garde son arme pour pouvoir continuer son entreprise du mal et de pillage. Voilà, et c'est ça. Donc il y a une nette différence à faire. Si aujourd'hui le RJ ont accepté de se faire désarmer et que ça paraît un succès, mais c'est tout à fait parce qu'il y a cette connotation que ce sont des citoyens centrafricains.
Ok, monsieur le ministre Fidèle Mwandika, comment aujourd'hui pouvez-vous justifier le fait que Ali Daras veut coûte que coûte nommer un calife, un successeur sur son groupe et que aujourd'hui en même temps il continue d'entretenir ses hommes sur le terrain alors que le désarmement veut dire que taire les armes et dissoudre les groupes?
Merci. Je vais d'abord répondre à mes détracteurs qui disent que je suis responsable ou co-responsable avec François Bozizé. Monsieur Koyamène a été au gouvernement sous Bozizé, il avait été radié de son parti, il a rallié le KNK, lui aussi il est responsable. Alors ce que je voudrais dire, en 2001, le coup d'État sanglant que le président du Rassemblement démocratique avait fait, il n'avait pas fait avec l'armée. Il avait fait avec des mercenaires, ça a échoué. Il y a eu des morts, les mercenaires sont restés à Bangui. Et j'étais pas au gouvernement. Le coup d'État de 2002, avorté, de Bozizé, qui a paralysé plus d'une centaine d'âmes centrafricaines. Il a ramené avec lui des mercenaires et des seigneurs de guerre. Le coup d'État de 2002-2003, j'étais pas au gouvernement. J'étais au gouvernement au prix d'un sacrifice de retour à la légalité constitutionnelle. J'étais candidat et je me suis battu pour que la démocratie revienne dans ce pays. Et à ce titre que j'ai été ministre de 2005 à 2013 dans la paix. Et en 2013, il y a un autre pouvoiriste putschiste qui est également venu prendre le pouvoir avec des mercenaires. Il s'agit de Doutoja. Il a recruté aussi les mercenaires que Kolingba, Patassé et Bozizé ont ramené en Centrafrique. Donc c'est avec ces mercenaires-là qu'ils travaillent avec. Et ce sont ces mercenaires-là que l'accord du 6 février est en train de résoudre le problème. Parce que tous les accords que le pays a connus depuis 1981 jusqu'en 2015 sous la transition de Mme Samba Panza n'a pas fonctionné. Vous avez été le vice-président du suivi de ces accords-là. C'est à vous de nous dire pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ces pouvoiristes-là ne pouvaient pas renvoyer ces gens-là. Aujourd'hui, je vous dis que le gouvernement est déterminé à finir avec les groupes rebelles. Monsieur la preuve est que le groupe RJ Sayo, qui a été totalement désarmé et démobilisé, et que vous traitez par xénophobie en disant que ce sont des Centrafricains. Donc sûr, les anti-Balaka, c'est des Centrafricains, c'est vrai. Mais les anti-Balaka, ils ont tué des Peuls qui sont nos frères aussi.
Non,
mais les Peuls sont nos frères.
Je n'ai pas voilà. Justifié. Je n'ai pas justifié.
Non, laissez-moi parler. Je ne suis pas opposé quand
une compréhension.
Quand vous parlez,
je vous prie de respecter la parole.
Voilà. Alors, je dis que les groupes armés, on n'est pas là pour dire que groupes armés, c'est les cas musulmans, anti-balaka. Tous les 14 groupes armés se valent. Tous les 14 groupes armés se valent et doivent être désarmés. Pour répondre à votre question, 2019, mon frère, est une année préélectorale. Certains députés en perte de vitesse et des hommes politiques avides de pouvoir profitent des médias privés. Très écouté comme des colocas pour faire des déclarations démagogiques et des discours populistes pour piéger les électeurs.
La radio de Kelouka, c'est une radio responsable voilà. Qui traite les faits. Voilà. Et il y a un fait aujourd'hui.
Je vous en félicite.
Il y a les éléments de 3 heures en Gaoundaï.
Les éléments de 3 heures sont en train d'être désarmés et démobilisés.
Continuez à être des
donc,
dupes.
La libre circulation des biens et des personnes. Mais s'il vous plaît, la libre circulation des biens et des personnes est une réalité aujourd'hui. Ouh, des commerçants tchadiens. Ouh. Camerounais, en provenance de leurs pays respectifs, ainsi que les nationaux des différentes localités du nord-ouest de notre pays, font des navettes de ville en ville, de commune en commune, de village en village, pour vendre leurs marchandises, sans aucune inquiétude, au vu et au su de la population. Voyez-vous, de Ngaoundaï à Bokaranga, à Kouï, à Ndakobila,
ouais,
à
Nyobiloa, vous n'avez jamais été, vous n'avez jamais même été à Ngaoundaï.
Je n'ai pas besoin d'aller à Ngaoundaï pour savoir.
Vous n'avez pas menti comme ça au chef de Ndakobila.
Mais pourquoi vous m'empêchez de parler
ça? Mais ça,
vous êtes pris au piège.
Monsieur Wanzika, voilà.
Parole à... Il ne laisse pas le temps de parler, vous voyez.
Ok, nous avons compris voilà. La teneur de votre intervention. Monsieur Christian Beninga, vous avez la parole.
Non, je suis un peu déçu. Un peu déçu de Monsieur Wanzika parce qu'on ne peut pas venir à un débat et continuer à lire ce qu'on a préparé au quartier alors que la question a été bel et bien posée. Et lorsque vous lisez, rendez-vous compte que ce que vous lisez assume les réalités de terrain. Je m'explique. Je ne sais pas ce que vous entendez par la libre circulation des biens et des personnes. Vous vous moquez des Centrafricains, monsieur Wandika.
Je vous dis
que vous vous moquez voilà. Des Centrafricains. Parce
c'est
que
vous moquez.
Je vous dis, lorsque vous quittez Bangui, vous arrivez à Bambari. De Bambari, pour progresser, vous ne pouvez pas parler de la libre circulation des biens et des personnes.
Absolument.
Demandez aux commerçants, les Boubangueré et les trafiquants, ceux qui vont à Douala, qui vont à Garambouaï, sans le convoi, est-ce qu'ils peuvent librement faire acheminer les produits qu'ils ont achetés depuis Douala ou Garambouaï jusqu'à Bangui?
Depuis la
non, monsieur, je ne vous ai pas
possible.
Interrompu. Ne jouez pas à ce jeu avec
voilà.
Vous, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu. Alors, demandez à ces commerçants-là, vous allez vous rendre compte que la question de la libre circulation des biens et des personnes est une question extrêmement sensible. Vous ne pouvez pas venir lire autour de ce plateau, je suis désolé, qu'il y a une libre circulation des biens et des personnes. Il y a un fait qui est là. Le désarmement, vous l'avez si bien dit au début, n'est qu'à ses débuts. N'empêche, l'évaluation nous démontre qu'il s'agit là d'une duperie, il s'agit là d'un acte qui ne nous permet pas de créer les conditions d'une paix durable. Révisitons les choses, révisitons les stratégies pour pouvoir créer les conditions d'une paix durable. Je vous dis que l'insécurité a trop duré dans ce pays, comme si nous sommes faits dans ce pays pour ne connaître que malheur, pour ne connaître que désolation, pour ne connaître que panique. Non, nous pouvons également créer les conditions d'une paix durable. Ah, si la volonté y a. Et je finis par là, monsieur Fernand. Lorsque le député a évoqué les questions des groupes armés, moi je l'ai dit et j'assume. Je l'ai dit déjà à d'autres occasions et j'assume. Il faut faire la classification des groupes armés. Il y a certains groupes armés qui sont dirigés par des mercenaires étrangers. Ils n'ont rien à voir avec la paix dans ce pays. Et il n'y a qu'en République centrafricaine qu'un Nigérien vient commander. Ali Dara, il nous vient du Niger. C'est un étranger. Vous pensez que Ali Dara peut être sensible devant la souffrance des centrafricains au même titre qu'un Sayo? Est-ce que vous pensez que Sidiki peut être sensible devant la souffrance des centrafricains au même titre qu'un fils du pays? Non. Ceux-là ils ne peuvent en aucun cas être sensibles devant nos souffrances. Ça a trop duré. Ali Dara, c'est qui par exemple? Depuis Babalade, et vous le savez, vous étiez au gouvernement. Depuis Babalade, Ali Dara, ça a été le chef d'état-major de Babalade. Babalade était tchadien. Il était réparti chez lui. Il est revenu. Il continue. J'ai envie de dire, vous l'avez ramené. Ah. Pourquoi je le dis? Parce que vous étiez dans ce gouvernement-là. Jamais vous l'avez dénoncé, monsieur Ngwandika. Vous n'avez jamais dénoncé la présence de ces mercenaires. C'est ça. Sous d'autres, ce qu'est-ce qu'on observe? Lorsqu'on n'est pas d'accord avec la politique qui se fait, étant dans le gouvernement, on démissionne et on prend
position. Le gouvernement.
Non,
ça, c'est avant mon
faux. C'est faux. Je m'explique. Je m'explique. C'est faux.
Avant mon entrée.
Vous avez dit, vous êtes entré au gouvernement en 2005. Oui. Le programme DDR, monsieur Koyamen est là. Le programme DDR s'étend jusqu'en 2010, jusqu'en 2012, 2013.
Ben oui.
Donc de 2005 à 2013, vous avez la possibilité de rendre le tablier et de dénoncer ce qui se faisait. Vous ne l'avez pas fait. Assumez, monsieur Mwandi.
Là, aujourd'hui, n'est pas le débat. Monsieur Pascal Koyamene, Sidi qui aujourd'hui se trouve à boire avec ses victimes. Aujourd'hui, est-ce qu'un jour, Sidi qui aura la sécurité d'avoir un procès équitable pour expliquer ses motivations pour que le peuple comprenne pourquoi il est venu en République centrafricaine créer la désolation?
Je ne sais même pas si c'est une question à poser. Parce que pour moi, M. Sidi qui sa place est en prison. Il doit rendre compte de ses actes.
Tout après le désarmement, bien sûr.
Après ou avant, il doit rendre compte. Je ne comprends pas pourquoi des hommes de ce calibre-là sont en circulation et sont là dignement.
Donc vous voulez dire qu'il est protégé?
Il est protégé. Pour moi, il est protégé, c'est simple. Pourquoi voulez-vous qu'on protège un monsieur comme ça? Qui sème la désolation, comme disait mon petit frère ici. Qui crée malheur sur malheur. Aujourd'hui, même à boire, là, aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème par rapport au désarmement. La MINUSCA dit, moi, je ne ramasse que les armes. Mais les grenades, les munitions, je ne ramasse pas. Ça crée un problème. C'est pourquoi on vous dit, là où nous sommes, on ne sait pas où ce qu'on va. Je dis, il faut revisiter tout. Donc, la place de celui qui est en prison. Pour moi, là, il est à boire, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas exactement. Quel est son rôle? Donc, sa place est en prison. Première des choses. Moi, je voudrais ajouter quelque chose à mon frère Ngwandika.
Toujours en Ngwandika.
Non. Il ne faut pas qu'il ait l'habitude de tronquer l'histoire. Quand il parle de discours populiste, il dit des hommes politiques, mais lui, c'est plus populiste ce qu'il dit, comme disait mon petit frère. Et il lit son papier, ben, ça n'a rien à voir avec la réalité. Le peuple souffre quand il parle de libre circulation. Moi, j'ai été à Lindao, Mubai, Nzangba, le mois de septembre dernier, du 12 au 3 octobre. Aller là-bas circuler. Si vous n'avez pas l'autorisation de M. Dara, vous ne pouvez pas faire un pas.
Mais vous avez bien circulé là-bas.
Mais, oui, mais parce qu'au prix de l'argent, il faut payer.
Il faut payer.
Donc je finis. C'est pour dire que quand on parle de libre
mais
circulation.
Mais pourquoi vous n'avez pas refusé de payer?
Puisque je devais me rendre quelque part. Ah, bon. Et quand on me dit de payer, je paye, je continue mon chemin. Ouais, mon problème. L'État doit. Quand il y a un principe élémentaire qui dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Ça, tant qu'il n'y aura pas de langage de force face à ces gens-là, on peut voter là dans cette histoire, cette merde-là pendant longtemps. On va rester dans cette situation pendant 30 ans.
Okay.
Vous avez vu, en Angola, à l'époque, en Angola, la pression militaire jusqu'à
Dos Santos.
De Dos Santos sur Savimbi a porté ses fruits pendant de longues années. Ici, on est là, on dit bon, désarmement, machin, DDR, tranquillement, cajole tout le monde, et on est là. Regardez tout l'Est, le Nord-Est, je dirais même, et le Centre, il n'y a rien. Il y a un peu Ouampende où on se débat parce que si, parce que ça. Parce que c'est la plupart des non-combattants, c'est tout. Mais ça ne veut rien dire.
Ok, on a Benadia.
Je crois que je devrais compléter un tout petit peu la présence de Sidi Kaboar. Je crois jusqu'à présent, le fait que le gouvernement continue à affirmer que le désarmement est une chose et la justice est une autre chose. Je crois que ça, je suis parfaitement d'accord. Probablement, le temps de la justice viendra. La justice peut-être prend du temps, mais notre souhait est que cette justice-là arrive. Mais quant à ce qui concerne effectivement la place de Sidi Kaboar, je crois que ça, c'est de l'insulte
vis-à-vis des victimes. Vous savez que la population de Boire, surtout dans sa partie nord-ouest de la ville, nord-ouest de Boire, cette partie-là n'est peuplée que de ceux-là qui ont fui les exactions de Sidi Ki de Kouy, qui ont fui les exactions de Sidi Ki à Bong, qui ont fui les exactions de Sidi Ki à Bokaranga.
C'est plusieurs fois que vous répétez cette même chose.
Mais oui, mais on est là, on est là pour ça, on est là pour ça.
Je crois
parfaitement que mettre Sidi Ki devant ces victimes-là, c'est insulter la mémoire de ces victimes-là. C'est pourquoi moi j'avais proposé, mais quand le Premier ministre était à l'Assemblée nationale, j'ai dit, la place du conseiller à la primature, c'est ici à la primature, pas à voir. Les victimes, ceux qui ont subi des exactions, voient Sidi Ki en train d'être logé sur les fonds de l'État, en train d'être protégé par les gendarmes et les FAKA qui doivent protéger la population et qui n'arrivent pas, parce qu'il y a des difficultés, n'arrivent pas à assumer leur mission de protection de la population. C'est ceux-là qu'on met à la disposition pour protéger celui-là qui a tué, qui a massacré, qui a pillé la population centrafricaine. Je crois qu'il y a un problème. C'est par respect. Par pur respect, moi je souhaite à ce que Sidi Ki soit ramené à côté du Premier ministre pour lequel il est le conseiller. Il est le conseiller. Il est le conseiller du Premier ministre, qu'il vienne ici à côté du Premier ministre. Et maintenant, si la justice arrive au moment de faire son travail, il est là, la justice fait son travail.
Ok, monsieur le ministre Fidèle Wandika, vous avez évoqué la période préélectorale où les députés s'agitent parce qu'ils sont en perte de vitesse. N'est-ce pas là une preuve tangible de la collusion du gouvernement avec les groupes armés en vue de manigancer les résultats des élections?
Il n'y a pas de collision entre le gouvernement et les groupes armés. Vous venez de suivre un exemple type de discours populiste et démagogique à caractère électoral de la part du député de Ngaoundaï. Je vous dis que grâce à l'accord du 6 février, la paix se pointe à l'horizon. J'ai dit qu'il y a libre circulation dans la zone du nord-ouest.
Le président Ziguela a été empêché d'aller sur son terrain.
Le président Ziguela, qui est un homme de vérité, a fait le déplacement.
Il a été empêché par
la sécurité. Il est revenu, il a fait des propositions. C'est pas comme le RDC, les représentants des Zingobiani ici, qui cherchent seulement à déstabiliser les institutions de la République. Je jette des fleurs au président Ziguela qui a pris le courage de sillonner ces zones dites ultra dangereuses. Mais il est revenu et il a fait des propositions au gouvernement et le gouvernement a pris ces propositions en compte pour régler certains problèmes. Mais je puis vous le dire avec fierté, je le dis encore, que Ali Daras, Sidi Ki, les autres que vous avez cités,
Al-Khatim,
ils vont un jour rendre compte devant la justice.
Avant ou après les élections ?
Après la paix, parce que nous avons toujours en mémoire ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Le tribunal de Nuremberg s'est tenu dans la paix. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de traquer même ceux qui ont plus de 99-100 ans, qui étaient des criminels de guerre à l'époque. Donc tôt ou tard, Sidi Ki, qui a perturbé la quiétude des paisibles populations de Ombomo, cette population qui n'a jamais pris les armes, cette population qui ne s'est jamais corrompue.
Ali Daras.
Il paiera un jour. Monsieur Sidi Ki commence à entrer dans la République. Vous demandez à ce que
Sidi Ki
vienne ici comme conseiller auprès du Premier ministre. Cela prouve à suffisance que vous ne maîtrisez pas les accords du 6 février. Je peux vous le dire, monsieur le journaliste, c'est grave, que le peuple n'est plus dupe. Le peuple suit à la lettre les dividendes des accords du 6 février.
Ok, nous tendons vers la fin de notre émission. Monsieur Christian Beninga, le peuple suit les dividendes de cet accord, qu'en dites-vous?
Non, écoutez, je ne sais pas ce qu'on entend par république dans ce pays, mais la République centrafricaine appartient aux centrafricains. Ce n'est pas de la xénophobie. Sidi Ki n'a pas sa place dans la République centrafricaine, encore moins Ali Daras ou Al-Khatim, que sais-je encore. Je suis sérieux et serein là-dessus. Le jour où Sidi Ki va être affecté à la primature ici, je pense pense que ce jour-là, le procureur Éric Tambo va encore m'appréhender parce que ça, ce n'est pas sérieux. Il n'a pas sa place dans la République. Et parlons de la justice pour finir. Lorsqu'on parle de la justice, oui, je suis d'avis. Je souscris à ce que l'honorable a dit et puis un peu moins à ce que M. Nwandika a dit. Mais il y a un exemple qui me laisse sceptique. Il y a un qui a été condamné par la justice de notre pays et qui est venu se balader à Bangui et est rentré dans sa zone. C'est Abdoulaye Hissène. Ceux qui n'ont pas encore été jugés, on aurait compris. On aurait compris. Mais il y a un qui a été jugé par la cour criminelle de notre pays, Abdoulaye Hissène, par contumace. Vous ne le savez pas. Ah, je vous l'apprends, monsieur Nwandika. Allez vous informer. Il a été condamné par contumace. On l'a amené, il s'est baladé dans la ville de Bangui et on l'a ramené chez lui en délai. Voyez-vous, à partir de ce moment, on peut y mettre des réserves sur la volonté de la justice de mettre la main, effectivement.
Réserve sur la volonté d'aller jusqu'au bout. Monsieur le ministre Kouame Né, votre dernier mot sur cette question.
Moi, ce que je voudrais dire, quand on entend certains dire ici que le peuple tire le dividende de la paix, je ne vois pas de quelle paix parle tant. Puisque on ne peut pas circuler librement. Si on peut aller même sur la route nationale numéro 1 pour aller jusqu'à la frontière de Garamboulaï, on se fait escorter. Est-ce que vraiment on peut parler de libre circulation des biens des personnes? Soyons sérieux. Que M. Nwandika aille vers l'Est, aille à Bria, aille à Bambari, à Alindao, dire ce qu'il dit là, s'il ne se fait pas lyncher, je donne ma langue à ça. Non, c'est pas sérieux. Je pense que lorsqu'on parle du peuple centrafricain, il faut être sérieux, responsable. M. Nwandika occupé de hautes fonctions dans ce pays, il faut qu'il soit un jour sérieux.
Sérieusité.
Sérieux, et puis pour parler bien, parler du peuple centrafricain. Parce que là, il s'agit de la vie du peuple qui subit dans sa chair tous les affres de la guerre. Tous les jours que Dieu fait, au jour d'aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, le peuple centrafricain souffre. On ne veut pas nous raconter des histoires ici.
Ok, après le désarmement, la situation reste telle. Vos propositions pour la fin, honorable Bernardila?
Je crois que la politique de la main tendue du chef de l'État que le gouvernement est en train de mettre en pratique, cette politique, la politique de dialoguer avec les groupes armés, ne doit pas être indéfinie. Et surtout, ne doit pas pousser le gouvernement à être dupe face à ces groupes armés-là que nous connaissons, n'ont pas du tout la sincérité dans leurs actions. Ils disent une chose, ils font une autre. Donc, je demande au gouvernement d'être extrêmement prudent et vigilant. Et moi, je suis un homme politique, comme il a dit. Nous ne faisons pas ici ce débat-là pour des motifs politiques, mais surtout d'abord pour nos populations, ceux-là qui nous ont élus. Mais je crois que si cette situation perdure, comment on peut parler des élections quand les gens sont en train de faire leur démagogie pour dire que voilà. Mais nous, c'est devant la réalité. Si le président Ziguele lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, est empêché par ces groupes armés d'aller sur le terrain, mais si arrivent les élections, comment nous allons aller sur le terrain pour battre campagne, pour faire ceci, pour faire cela, si ces groupes armés-là ne sont pas dissous? Or, les élections pointent à l'horizon. Nous tous, nous voulons aller aux élections. Nous tous, nous voulons aller aux élections.
Nous irons aux élections.
Mais il faut désarmer. Il faut désarmer ces groupes-là. Parce que si ces groupes-là restent avec la force, on ne sait pas de quel côté ils vont se positionner, qui ils vont soutenir. Et je crois que ça, je le garde pour moi.
Cette question met un terme à notre débat Patara de ce samedi consacré à la problématique du désarmement des éléments des troisièmes à cuit. Est-ce une avancée ou de la poudre aux yeux? Pour en débattre, nous avons reçu autour du plateau M. Fidèle Nwandika. M. Fidèle Nwandika, merci d'avoir répondu à notre appel.
Je suis au service du peuple souverain.
M. Paul Cresson Beninga, merci d'avoir répondu à ce débat.
Merci.
Nous avons aussi reçu M. Pascal Koyamene, ancien ministre, représentant du RDC. Monsieur Pascal Koyamene, merci d'être de nôtre.
Je vous remercie.
Nous avons honorable Bernard Dila qui a aussi accepté de débattre avec nous sur cette question. Honorable Bernard Dila, je vous remercie.
Merci Jean-Fernand Kouenam, merci à tous ces citoyens centrafricains qui par patriotisme sont en train de suivre cette émission.
Ok, Patara, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je suis Jean-Fernand Kouenam, j'ai bénéficié de la complicité technique de Herman Nambona et de Anne-Alex Poulebati. Rendez-vous la semaine prochaine.